midi 40, comment ça se passe sur la route? Tout est bien déneigé, c'est encore un peu de poudrerie, vous avez des choses à nous dire, il y a des sorties de route, c'est le 418-971-1021. Je lisais tantôt Montréal, 8 jours pour déneiger le centre-ville.
Et en fin de semaine, Yannick, là?
Et 70 cm depuis le 13 février, ça va prendre 8 jours uniquement pour le centre-ville de Montréal. Puis Laval, je pense qu'ils ont eu un petit peu de neige, Pascal, là. 13 jours.
En fin de semaine, on a pu constater ça avec l'amoncellement de neige gelée comme ça, là. Si en 8 jours, c'est fini, je suis quand même surprise.
Ouais.
Tu sais, souvent, on dit qu'à Québec, on est chanceux pour le déneigement. On déneige même quand il n'y avait pas de neige, là. Peut-être qu'on peut se considérer chanceux cette fois-ci dans la façon de faire.
Oui, mais ça a bien été à Québec, dis-moi. Là,
oui, absolument.
Je roule pas mal ces temps-ci, puis c'est très bien déneigé.
Encore ce matin, il y avait des interdictions de se stationner dans les rues. Tu avais autant la gratte qui était en synchronisation avec la petite gratte de trottoir. Mm. Hey, c'est intelligent, là.
Vraiment.
Faut le faire.
On les salue, c'est de longues heures à travailler, les amis, puis ils dorment très peu. Donc, c'est important de leur dire un gros merci quand on les croise.
Absolument.
Moins 14 degrés sur Québec avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de moins 24 aujourd'hui. C'est nuageux. Des probabilités d'averse de neige à 60 % maximum de moins 12 degrés. Ce soir, cette nuit, neige intermittente, accumulation de neige de 2 cm par endroit. Des températures stables à près de moins 13 degrés. Demain, mercredi, ce sera nuageux avec 40 % de probabilité d'averse en matinée. Des averses de neige, bien entendu, maximum de moins 6. Jeudi, alternance de soleil et nuages, maximum de moins 1. Et vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 5 degrés. Article hyper intéressant que j'ai lu ce matin. C'était sur le site, si je ne me trompe pas, de la presse, hein, Pascal?
Pour le texte où on s'en va, là?
Oui, c'est ça. Oui. C'était sur le site, excuse-moi, de Radio-Canada, où on parlait de voyant rouge avant le lancement du fameux sac-clic. Je sais pas si tu te souviens de ce moment-là, Pascal, mais il y a des gens qui faisaient la file devant la Société de l'assurance automobile du Québec parce que le sac-clic, ça fonctionnait pas. Là, à un moment donné, il fallait que tu prennes rendez-vous pour être capable de gérer tes affaires. Puis des fois, les rendez-vous n'étaient pas toujours disponibles.
Tu avais la presse en tête parce que la presse a fait de nombreux dossiers martelé. Là, ce qu'on a su, c'est que ça a coûté pas moins de 41 milliards de dollars au courant des derniers mois, puis ça, c'était la presse qui l'avait rapporté. Mais tu trouves pas ça étrange qu'on fasse un texte ce matin par rapport à Radio-Canada sur SAQ Click qui aurait mal fonctionné? C'est ironique, mon commentaire. Là.
Ben, c'est la vérificatrice générale du Québec qui doit présenter jeudi un rapport qui porte sur lancement raté de SACLIC. C'est 2 ans après la mise en service de la plateforme qui a provoqué de longues files d'attente devant les succursales. Il y a des gens qui se sont vus interceptés par les policiers parce qu'ils se sont fait dire qu'ils n'avaient pas régularisé leur situation avec leur permis de conduire leur immatriculation. Puis là, les policiers, bon, ils savaient, mais il y en a qui se sont fait remorquer quand même. Là.
Au début, après ça, on a ajusté, on a dit, bon, on laissait un genre de délai à ces gens-là, mais le pire était des gens qui avaient des traitements, il y avait des histoires qui fusaient de partout.
Ouais.
Puis ici, à Boulevard, on avait reçu quelqu'un, des traitements médicaux à aller passer aux États-Unis, puis ça était extrêmement cher à la base, fait qu'ils avaient décidé d'y aller avec leur roulotte d'été, là, de camping, mais c'est parce qu'elle était remisée. Fait que là, pour la faire déremiser, c'était impossible. C'était le chaos.
Les chums camionneurs. Les chums camionneurs faisaient du US, eux autres, ils avaient toutes les difficultés du monde à se faire approuver.
Puis ils s'en foutent, là, eux autres, là, aux États-Unis, pareil, si le sac-clic fonctionne pas, là.
Donc, c'était le gros bordel. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'un mois avant le déploiement de sac-clic qui a viré au fiasco, ben il y avait des voyants rouges qui s'affichaient sur le tableau de bord de la société d'État. Et ça, c'est ce que révèlent des documents qui ont été obtenus par Radio-Canada. On a eu l'idée d'en parler avec un gars qui connaît ça pas pire, l'informatique. Son nom, c'est Patrick Mathieu, qui est expert en cybersécurité et cofondateur du Hackfest. Salut Patrick!
Salut Normand!
J'imagine que toi, on t'apprend rien là, avec l'article de Radio-Canada d'aujourd'hui, mais n'en demeure pas moins que c'est surprenant. Voyant toutes les lumières qui étaient allumées pour dire « on s'en va dans le mur, les amis », c'est vraiment surprenant que les fonctionnaires aient dit « non, c'est beau, on met ça en place, puis advienne que pourra ».
Ben, tu sais, c'est la preuve qui nous manquait. On savait tout, on avait toutes les fleurs d'alerte. Ils nous ont écrit pour nous dire qu'ils n'étaient pas prêts, etc. Là, Radio-Canada nous a envoyé un document, puis tu sais, je l'ai ouvert devant moi. La première page, la page 2, dit clair, là, officiel, encerclé en rouge, qu'ils vont arrêter les services pendant 21 jours pour faire la transaction, pas la transaction, mais la transformation de l'ancien système vers le nouveau.
On s'en souvient de ça, oui.
Oui, exact. Ça commence là. C'est 21 jours consécutifs hors ligne pour faire les dernières mises à jour avant d'aller en production. N'importe quelle entreprise sur la planète que tu vois à ton boss dire « on ferme la business pendant un mois pour faire une mise à jour », soit il te retourne faire tes devoirs, soit il te met dehors. Là, aujourd'hui, encore une fois, tous les responsables à la SAC qui sont responsables de ce désastre sont tous en place. Personne n'a été mis dehors. Il n'y a aucune imputabilité. Mais moi, je trouve ça...
Ouais. Il y avait quelqu'un qui était sous le conseil d'administration qui s'était fait changer d'emploi. Là. Mais effectivement, tu as raison. Il n'y a personne qui a été... On a tapé sur les doigts de personne.
Puis ce qui est triste, c'est que dans l'équipe, Yannick, là, il y a du monde qui mettait au pilori un peu leur boss puis n'était pas écouté. Au sein de l'équipe. C'est comme si nous, là, on dit à nos boss, ça n'a fait aucun sens. Ouais. Il faut faire telle affaire. Puis les boss nous regardent en disant, ben vous le faites pareil.
Puis pour avoir parlé, Patrick, avec un porte-parole de la SAAQ à l'époque, lui, ce qu'il me disait, c'est que la SAAQ avait fait un choix de ne pas virer sur l'ancien système. Tu sais, un genre de système parallèle qui fait en sorte que si ça clique, ça ne fonctionne pas. On peut traiter l'information avec l'ancien système qui datait, je pense que c'était du début des années 80 ou fin 70 de mémoire. Là. Donc, toutes les décisions qui avaient été prises n'avaient comme pas de bon sens pour des experts en informatique. Là.
Non, exact. Puis, c'est la manière de faire, là, de dire tu utilises l'ancien système, mets une nouvelle fonction en place du nouveau système. Tu sais, là, tu transfères, je sais pas, le paiement des permis de conduire. Ça marche, on l'a testé, on le met en production. Il en reste 20 à faire. Tu le fais pendant un an, s'il faut. Ou tout est prêt, puis tu fais le changement. Mais là, ce qui est intéressant là-dedans, tu sais, tu disais les voyants rouges. Puis ce qui est bizarre du document de Radio-Canada, c'est que les voyants étaient verts. Le document complet dit, voici le statut de qu'est-ce qu'il reste à faire pour le prochain mois. Puis il y a des 20-30 d'éléments qui sont restants à faire un mois avant. Là.
Quand on parle des tests d'intrusion, Patrick, là, on dit que les tests d'intrusion n'étaient pas réalisés à 82 %, donc il en restait encore à faire. De quoi on parle avec ces fameux tests d'intrusion-là?
Ben, c'est de tester ce qu'on a développé de nouveau, si c'est sécuritaire, oui ou non. Mais tout le reste du document, c'est ça aussi. Là. C'est des tests ou des fonctionnalités qui ne sont pas finies, entre 40 et 80 % à peu près, qui disent ben, « le prochain mois, on va tester ça et on va finaliser ça ». Mais ce que tu vas trouver, peu importe que ce soit le test de sécurité ou le test normal, tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Et souvent, quand tu trouves quelque chose de majeur ou de truc de sécurité, pas des problématiques qui se règlent en deux jours. Là. Souvent, ça peut être quelque chose de très complexe qui peut prendre des mois.
Puis ça ouvre aussi à des pirates informatiques de l'extérieur quand il y a des brèches comme ça. Puis tu te dis, le gouvernement est supposé...
Ils mettent à risque c'est les ça. Données. Là. Tu ça, dis... on s'entend. Là.
Mais
clairement.
Patrick... On en parlait ensemble là, dans la dernière année, là, je pense, une fois ou deux semaines, OK? Puis on en parlait dans une émission de radio de même, en commentaire, t'analysais ça, tu disais la même chose qu'en ce moment. Comment ça se fait qu'il faut un rapport pour qu'on prenne les choses au sérieux? Puis encore là, est-ce que tu as l'impression que ça va avoir un impact?
Zéro impact. Ça n'existe pas, l'imputabilité au gouvernement. C'est triste. Puis vous l'avez dit au début, là, ils ont déplacé le PDG dans un autre gouvernement, un autre ministère. C'est pas une tape sur les doigts, ça. Là. Ils ont juste donné une promotion ailleurs.
Exact.
Si on ouvre l'organigramme du site web de la SAAQ, puis vous regardez la VPTI, là, la vice-présidence de l'informatique, ils ont une cinquantaine, je pense, de gestionnaires. Ils sont tous là encore. C'est eux qui ont fait ce rapport-là. C'est eux qui l'ont présenté. Oui, la direction a décidé quand même d'aller de l'avant. Mais tu sais, tous les petits problèmes là, qui sont notés dans le document, là, c'est tous des petits cercles verts. Il n'y a aucune gestion de risque. C'est pas dit, bon, on est rendu à 40 % le risque est un problème égal ça. Il n'y en a pas. Il y a deux, trois places, c'est écrit « impact élevé ». Mais impact élevé de quoi? Ça se peut qu'il y ait d'autres documents qu'on n'avait pas, etc. Mais ça reste que tout ce qui a été montré dans ce document-là a été ignoré ou mal expliqué comme quoi que le risque était extrêmement grand. Mais de ce qu'on sait, comme vous avez dit, puis comme on a reçu plein de lanceurs d'alerte, ils l'ont dit sans des dizaines de reprises qu'ils n'étaient pas prêts. Fait qu'il y a quelque part dans la chaîne quelqu'un qui soit a changé le message ou soit la direction a totalement ignoré le tout. Là.
Et ça, on le nomme pas.
Ben ça, on ne le saura jamais.
Puis pourquoi on fait ça? C'est-tu à saveur électoraliste? On a hâte d'implanter quelque chose, puis au pire, ça va fonctionner parce qu'on se ferme les yeux puis on se dit « Ouh, ça va être correct ». C'est pourquoi est-ce qu'on veut aller aussi vite? C'était quoi qui urgeait?
C'est dur à dire, mais de ce qu'on voit, peu importe les problématiques en informatique au gouvernement du Québec, puis même qu'on parle à beaucoup de fonctionnaires, le point principal, c'est que la majorité des gestionnaires en place n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils font. Je ne veux pas dire tout le monde, là, mais il y a beaucoup de gestionnaires, mettons, en sécurité qui n'ont pas de connaissances en sécurité. Fait que je me dis, si c'est le cas en sécurité, c'est peut-être le cas en TI aussi, là. Et je ne dis pas que les employés en dessous ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont gérés souvent par quelqu'un qui ne savent pas ce qu'ils font. Récemment, on avait des rencontres avec l'Access, on avait des rencontres tous les mois avec la communauté, puis certaines personnes nous disaient que pour gérer l'infrastructure complète d'un ministère, la personne est toute seule. Puis dans une entreprise privée, pour la grandeur et ce qu'ils sont, ils sont supposés être 15-20. Fait que là, la personne est toute seule, son gestionnaire en plus, supposément, ne connaît pas les choses. Puis lui, pour ne pas perdre sa job, qu'est-ce que tu penses qu'il dit au boss du boss? Ben, les patrons disent, ben, tout va bien. Fait que là, le patron d'au-dessus dit, ben oui, tout va bien. Fait que là, ça montre que tout va bien tout le temps. C'est au MCN, là, quand il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté l'année passée du monde de la communauté du Access et autres,
ouais.
C'était ça le problème aussi, là. Ils ont dit, ben, pour faire mieux les choses, voici ce que vous devez faire. Fait que qu'est-ce qui s'est passé en bas? En bas, ils ont dit, ben, on n'a pas ça en place. Fait que les patrons ont dit, ben oui, tout est beau. On a ça en place pour pas qu'ils se fassent mettre dehors. Fait que là, c'est un cercle vicieux comme ça de gestionnaire, de... puis là, t'as pas d'instabilité, t'as des syndicats. On retourne en rond. On peut rire avec ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, là, mais le Dodge québécois, là, à un moment donné, il va falloir qu'il arrive aussi. Là.
Puis la santé, ça s'en vient, ça? On veut faire un genre de virage aussi en santé sur nos plateformes, un peu comme la SAQ Click. On a-tu mis un frein à ce train-là qu'on voulait prendre?
Aucune idée, mais tu sais, si on voit ce qui se passe partout, est-ce qu'on pense vraiment que ça va être différent? On va falloir le voir pour le croire.
Écoute, moi, j'ai été à l'hôpital il y a deux semaines, puis on me demandait encore, partout où je passais, à chaque fois que je rencontrais un professionnel, là, on me demandait encore ma carte d'assurance maladie. On m'a demandé à l'hôpital si je pouvais avoir ma carte d'hôpital. Puis là, il a fallu que je rencontre quelqu'un qui m'a fabriqué une nouvelle carte d'hôpital en plastique. Alors que juste avec le code de la carte d'assurance maladie, t'es supposé de savoir je suis qui.
C'est toute la même information. Ça, c'est drôle parce qu'on en a parlé sur un de nos podcasts. On a dédié un épisode à ça. La carte d'assurance maladie, la carte d'hôpital copie les informations de la carte d'assurance maladie. Parce que c'est l'ancien système des années 60 qui ont décidé de garder en place quand la RAMQ est arrivée. Ils n'ont pas fait le switch. Et qu'est-ce que ça fait comme de ne pas faire cette nouveauté-là? C'est qu'ils sont restés d'un sur papier. Toutes les informations de ta carte d'hôpital, by the way, c'est des informations confidentielles et sensibles de ton dossier. Fait que si tu la perds, ben, tu as 100% des informations de ta vie dessus pour cloner les identités, etc. Au côté sécurité, c'est pas bien, mais côté processus, c'est un désastre au niveau papier, là, ça c'est sûr.
Elle demande encore des fax. Récemment, j'ai quelqu'un qui a fallu qu'il aille trouver un fax parce qu'il n'y en a plus nulle part. Fait que là, il fallait qu'elle se rende à la pharmacie pour faxer quelque chose parce que c'était la seule procédure qui était possible. Puis au-delà de ça, dans son dossier, ça faisait 2 ans qu'elle faisait un processus qui était quand même assez important. Là. Je veux dire, c'était pour pas une affaire de « t'as-tu 3-4 poils pas à bonne place ». C'est pas de ça du tout. Là. C'est beaucoup plus impressionnant au niveau santé puis inquiétant. Puis il y avait des antécédents dans la famille. Il n'y a rien qui est connecté. Pourtant, tout est noté selon le spécialiste qu'elle rencontre. Mais entre spécialistes, il n'y a rien qui donne, mettons, peut-être une économie de temps et d'explication dans un dossier où tout est répertorié. Si elle ne dit pas les antécédents de sa famille, ou elle en oublie, ou elle pense que c'est anodin puis elle n'a pas à le nommer, puis finalement, c'est quand même une pierre angulaire dans son dossier, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se sait. Puis finalement, tu continues d'avoir des processus ou encore de faire appeler 5 ans plus tard quand il est trop tard.
C'est un désastre. T'sais, j'ai été faire un test il n'y a pas très longtemps. L'été passé, je me suis fait appeler il y a 2-3 semaines pour le même test. J'ai dit, vous n'avez jamais fait votre test, vous devez venir le faire. Ben là, c'est parce qu'il est fait. Ah, vous l'avez fait dans un autre hôpital, fait qu'on le sait pas.
Ça n'a pas de sens.
Ben, vous le savez pas. Puis là, j'ai dit, ben, pouvez-vous transférer mon dossier? Il dit, non, non, c'est toi, il faut qu'il appelle, puis tu l'envoies un courriel.
Ouais. Là, tu sais, on.
J'appelle où, là?
Ouais. Mais tu savais pas, en plus, que c'était fait.
On sort un peu de sa clique, là, mais je veux dire, moi, j'ai quelqu'un, ça, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui fait de l'anxiété généralisée. Si elle n'a pas les bons médicaments, cette personne-là, ben, elle peut pas aller travailler. Mais elle, veut travailler, tu comprends? Fait qu'il fallait qu'elle rejoigne son médecin de famille. Puis, elle n'était pas capable de le rejoindre. Donc, elle est allée à la pharmacie Jean Coutu. Elle a demandé à la pharmacienne si elle pouvait utiliser le fax. Et ils ont envoyé un fax écrit à la main au médecin de famille. Et le médecin de famille a fait le retour. On est en 2025,
le patin. Imagine le temps perdu aussi pour ces spécialistes-là. Puis après ça, on nous dit qu'on n'est pas capable de mettre plus de chirurgie ou de consultation ou autre. J'aimerais ça, moi, qu'on ait une banque de temps à côté de notre tête numérique, là, puis mettons qu'à côté de leur tête à eux soit écrit combien de temps perdu avec des fax.
Je pensais
ça s'applique pas juste à la santé. Hein. Récemment, j'ai des collègues qui ont fait affaire avec le passeport fédéral.
Ouais.
Pour avoir des passeports là, avec certaines procédures, il a fallu qu'il faxe une centaine de papiers.
Non, t'as pas idée, là. Notre collègue Maxime, là, Larouche, là, ils ont perdu son dossier 74 fois. Ils ont dit pas les bonnes informations à chaque fois. C'est comme, présente-toi à personne, finalement, présente-toi plus. Puis là, après ça, on se dit, il nous manque de fonctionnaires, puis on en ajoute. Mais finalement, on en ajoute-tu pour pallier à la médiocrité puis la perte de temps inutile?
On ajoute des gestionnaires, pas des fonctionnaires. On ajoute du monde qui gère pour gérer, pour en rien faire. Ça donne rien. Tu sais, les coupures en santé aujourd'hui, c'est le même concept. On coupe en bas au lieu de couper en haut. Il n'y a rien qui fait du sens dans tout ce qui est fait. Ouais. C'est malheureux. Puis ça touche. L'informatique, c'est juste qu'elle est répandue dans notre société au complet. Fait que là, on se retrouve avec des personnes qui n'ont jamais d'expérience de faire des transitions numériques d'envergure, qui gèrent ça. Ah, puis si vous voulez rire, là, allez sur YouTube. Il y a la vidéo de la SAAC qui explique que c'est un grand succès, leur transition.
Oh non.
Avec la personne qui a géré le projet de la VPT que j'expliquais. Ça dure une heure et c'est une heure de temps l'explication de ne quoi pas faire pour un projet de transition numérique, évidemment.
Mais il y a un visage là-dessus. Hey, c'est gênant. J'espère que cette personne-là a eu un boni.
Ça te fait un dossier de formation, Patrick Mathieu. Quoi ne pas faire? Voici exactement cette affaire-là.
Exactement quoi ne pas faire. Ouais. Mais c'est un exemple parmi des centaines, c'est surtout ça.
J'ai le montant initial là, du budget de SACLIC là, pour le créer. Puis aujourd'hui, on me dit que ça va bien, SACLIC. Là. Moi, je l'utilise quelques fois, mais pas assez souvent. Puis, mais pour ceux qui l'utilisent, ils disent que ça va bien. C'était 458 millions, le budget initial. Et on serait rendu aux dernières nouvelles à 612 millions et c'est pas fini encore.
Ce qui est dommage avec ce montant-là, c'est que potentiellement, c'est les vrais et bons chiffres que ça aurait dû être au point de départ. Mais le point de départ n'était pas en 2017, il aurait dû être en 2007 ou en 2000. C'est des systèmes, comme tu expliquais au début, qui datent d'une autre génération. Tu sais, c'est des systèmes de 40-60 ans qui n'ont jamais été maintenus à jour. Puis, du jour au lendemain, disons, on va faire une migration. Fait que c'est sûr que le projet est compliqué. C'est sûr que c'est long. C'est sûr que ça coûte cher. Mais si il maintenait, puis il avait fait une transition lentement, mais sûrement depuis 20 ans. Oui, ça aurait peut-être coûté 400 millions sur 20 ans, pas en 2 ans. Et ça aurait fonctionné.
Patrick.
Mais il aurait pu l'apprendre sur le tas au lieu d'avoir... qu'il aurait dû avoir des experts pour savoir qu'est-ce qu'ils font.
Y a-t-il matière à poursuite pour des gens qui sont encore dans des déboires, mettons, de mauvais ficelage de dossiers quelconques à la SAAQ CLIC? Je sais que t'es pas avocat, mais est-ce que tu penses qu'il y a matière à poursuite?
Je sais pas comment ça marche avec ces choses-là au gouvernement, parce que ça reste qu'au final, c'est l'argent de tout le monde. Ça marche pas. Il y a peut-être quelque chose à faire. C'est ça une bonne idée d'avoir des avocats, tu sais, qui sont dédiés avec les recours collectifs. Je sais pas si on peut faire un truc similaire contre un gouvernement. Mais au final, il y a quelque chose à faire, peu importe c'est quoi, mais il faut qu'il y ait un changement. De un, les gestionnaires qui savent pas comment gérer ou ne savent pas l'informatique ou la sécurité puis qui gèrent ces projets-là, ça, c'est d'un grand, grand, grand problème. C'est des transitions informatiques comme ça, il y en a eu des grandes dans plein d'entreprises, mais c'est du monde qui sont experts dans le domaine. Puis je veux pas être méchant, mais la majorité des gestionnaires en place, c'est des fonctionnaires de carrière. Ils n'ont rien vu d'autre. Ils n'ont pas d'expérience autre. Ils ne savent pas comment faire les choses différemment, plus vite, de manière différente.
C'est probablement la raison pour laquelle...
C'est dans le ministère qu'ils sont. Ouais. Ouais.
C'est probablement la raison pour laquelle, des fois, on fait affaire avec des firmes extérieures, puis on embauche des gens, puis on leur donne des contrats pendant quelques mois pour réaliser certains projets.
Puis encore là, il y en a qui pèsent sur le crayon.
Parce qu'à l'intérieur même, ils n'ont pas les ressources nécessaires.
Puis il y a des gens qui me disent... les gestionnaires, en tout cas, ça semble être quelqu'un de l'interne, il dit « doit être un yes-man de tout ce qui est au-dessus, point final. Il est imputable de répondre positivement aux commandes qui viennent d'en haut s'il a suivi les ordres et les commandes. Il n'est pas en faute. » Mais tu sais, c'est super problématique. Là. En même temps, on comprend que chacun presse pour sa
paroisse. Tu sais, l'exemple que je donnais du MCM tantôt, c'est un vrai exemple. Dès que certaines personnes ont été mises en place pour changer les choses, il y a des lanceurs d'alerte qui nous ont écrit disant « on a reçu des demandes pour changer les choses, on n'a pas ça en place, on n'a pas les talents en place, donc on ment par défaut. » Et la majorité du monde ont menti dans les questionnaires, dans tout ce qui a été fait, pour que ça a l'air bien et qu'ils ne perdent pas leur rôle. Et au lieu de faire la bonne chose, de dire, regarde, on ne l'a pas, puis on a besoin d'un délai plus grand ou d'une expertise plus grande, c'est l'inverse qui est produit. Yeah. Là, si ça, c'est un exemple d'un projet, imagine l'envergure de tous les ministères.
Merci beaucoup de nous rassurer comme ça, Patrick Mathieu. Yeah.
Oui, ça nous aide vraiment.
Tes mots sont très rassurants.
Mm-hmm.
Continuons.
En même temps.
Ouais, on aime ça.
Il serait imputable, sinon. Ouais.
Patrick Mathieu, tu es expert en cybersécurité, cofondateur du Hackfest. Tu as parlé de podcast tantôt. On peut écouter ça où, tes podcasts?
Ah ben oui, c'est sur sécurité.fm. On dit les opinions comme il faut en termes de sécurité. On ne gêne pas. Si ça vous intéresse, écoutez ça. C'est super le fun. On est une belle gang. Puis, au plaisir de vous en reparler. Je suis sûr qu'on va avoir d'autres nouvelles cette semaine. Comme tu as dit, la vérificatrice va soumettre d'autres choses, puis il y a d'autres émissions qui s'en viennent. Je pense que ça va brasser.
Souhaite-nous pas de malheur. Salut!
Ouais, bye.
Bye. 13h02, des auditeurs qui nous écrivent au 418-971-1021 par texto. Salut, je suis fonctionnaire, maintenant gestionnaire, et les gens et le système de gestion rajeunit. On a de plus en plus de formations et d'outils pour bien faire les choses. Des projets d'envergure ont été menés par des gens avec peu d'expérience sur la transition numérique. Donc, l'auditeur se veut rassurant quant à certaines personnes à l'interne.
J'espère.
On se le souhaite.
On verra.
Fait une courte pause après la pause. C'est mon chum Pat Raymond qui va être là du podcast Financièrement parlant. Pat Raymond, c'est un ex-militaire, c'est aussi un ex-gestionnaire de patrimoine. On parlait de sujets hyper intéressants. Les millennials versus la génération Z.
Et la génération Z.
Toi, est-ce que tu peux bâtir ta richesse sans posséder une maison?
C'est une question que je trouve très intéressante. Je ne l'ai pas demandé à Pat, mais ce matin, j'étais excitée.
T'es-tu riche?
Ça dépend de quoi.
Ah. Ça veut dire t'es pauvre.
Ah oui, pauvre.